9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Trois invités, trois grandes questions dans cette nouvelle édition spéciale de C'est arrivé cette semaine. Comment gérer le déconfinement? La Chine a-t-elle menti? Et qui va payer la crise? Je recevrai d'abord le professeur Alexandre Mignon qui travaille en anesthésie-réanimation à l'hôpital Cochin de Paris. Il va nous révéler l'initiative dont il est l'un des promoteurs avec des chercheurs, médecins et spécialistes de l'intelligence artificielle. Le projet Covidia, un outil numérique qui permettrait de scanner la population française à partir d'un échantillon de tests, de déterminer les facteurs de risque et de nous guider dans la phase très délicate du déconfinement. Ensuite, Karine Milsan, elle est chercheuse au CNRS, spécialiste des systèmes de santé. Elle a passé 10 ans en Chine et elle nous aidera à y voir clair sur le démarrage de la pandémie dans ce pays qui, au nombre de morts par habitant, est officiellement celui qui s'en sort le mieux. Donc, soit la Chine a très bien géré cette crise, ce que dit sa propagande, soit elle a caché ses morts et contribué à retarder la prise de conscience mondiale sur le danger de ce virus. Bonne gestion ou mensonge coupable? La réponse à cette question sera déterminante pour le monde d'après. Enfin, un économiste qui, comme ses confrères, voit tous ses repères vaciller dans cette crise historique et va tenter de nous dessiner la suite. Patrick Artus, chef économiste chez Natixis et professeur à l'école d'économie de Paris. Dans ce monde à l'arrêt, jusqu'où les États peuvent-ils maintenir à coup d'emprunt les revenus et le niveau de vie de leurs concitoyens? Qui seront les laissés pour compte de ce monde qui devient plus pauvre? Combien de temps avant une vie meilleure? Patrick Artus va jusqu'à prédire la fin du capitalisme néolibéral. Voilà le programme.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Alexandre Mignon.
Bonjour Patrick Cohen.
Professeur de médecine et anesthésiste réanimateur à l'hôpital Cochin de Paris. Avant de nous parler de cet outil numérique qui pourrait nous aider à reprendre une vie normale dans les mois à venir, dites-nous d'abord quelle est la situation ce matin dans les hôpitaux parisiens et dans le vôtre à Cochin.
Alors écoutez, pour moi c'est un petit peu délicat parce que j'ai fait Covid, hein, j'ai fait une forme relativement importante. Malheureusement, j'ai pas eu besoin d'aller en réanimation. Ça m'a donné d'ailleurs beaucoup de recul par rapport à la situation parce que je suis arrêté depuis 15 jours environ. Et donc ce que je voudrais vous dire et ce que j'ai eu tout récemment, c'est-à-dire juste ce matin avant qu'on se parle de la situation, c'est qu'il semble que on va probablement être dans la stabilisation. C'est extrêmement tendu. Les professionnels ont fait un effort considérable. On est donc possiblement en Île-de-France et puis aussi au niveau français en haut de la cloche. Alors ça, c'est le résultat de tout un tas de mesures qui sont celles de des mesures de barrières, la distanciation, les masques qui sont quand même et qui ont fini par arriver. C'est aussi le résultat du confinement parce que on le sait maintenant, le confinement en France, ça a probablement sauvé environ 2500 personnes. Et puis c'est celui des soignants. Et dans les soignants, je vais bien sûr mettre tous les soignants, les infirmières, les aides-soignants, les directeurs qui ont aidé les médecins, qui ont repris en gros ce qu'ils avaient un peu perdu jusqu'à maintenant, à savoir la direction médicale des hôpitaux, pour se réorganiser, pousser les murs, faire des opérations exceptionnelles. On a entendu Djilali Annan dans votre journal pour dire les six solutions d'évacuation. En gros, on a reconstitué les taxis de la Marne, monsieur Cohen. Sauf qu'ils sont devenus des TGV, des avions, des bateaux, et qu'on a plutôt fait des migrations vers l'ouest et vers le sud de la France. Mais avec tout ça, on a permis d'augmenter les capacités de réanimation. Et ça a été une opération extraordinaire de solidarité, d'énergie, de dévouement. Alors en pratique, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a gagné une bataille et on n'a pas gagné la guerre. Pourquoi on n'a pas gagné la guerre? Parce qu'il faut rappeler qu'on n'a toujours pas de traitement. Il n'y a aucun traitement réel. On n'a que du symptomatique. Puis on n'a toujours pas de vaccin. Et donc la menace pour nous maintenant, c'est qu'après que la première vague va s'arrêter, puisque c'est évident, elle a déjà commencé à s'arrêter, notamment en Chine, où vous savez, vous en parlerez tout à l'heure, qu'on ne sait pas exactement à quel niveau elle s'est arrêtée et comment elle s'est arrêtée. Ceci étant, il y aura quand même le risque d'une deuxième vague. La deuxième vague, c'est que des gens qui n'ont pas rencontré de virus risquent d'être exposés au virus et de refaire une maladie, et éventuellement une maladie grave, et éventuellement en mourir.
On va en reparler, mais ce que vous regardez, c'est... pour dire qu'on approche du pic de l'épidémie ou qu'on est au pic, c'est le chiffre des admissions en réanimation. On a cité tout à l'heure le nombre de décès quotidiens toujours plus important, près de 600 morts hier. Mais les admissions en réanimation ont tendance à régresser de 151 hier, alors qu'on était à plus de 400 en début de semaine. C'est ce qui vous...
Oui, tout à fait.
fait dire qu'on approche du pic.
Voyez-vous, il y a des signaux faibles. Il y a celui-là, il y a aussi des consultations à SOS Médecins. Le professeur Salomon l'a très bien expliqué hier. Et puis, le fait qu'on reçoive moins d'appels pour hospitaliser des patients. Donc, et puis surtout, l'histoire. L'histoire, c'est que dans tous les autres pays qui sont passés avant nous dans cette pandémie, ben, ils ont tous connu cet aplatissement, puis ensuite cette redescente de la cloche. Et à nouveau, on ne relâche pas la tension, on est sous tension. Bravo à tous les soignants d'un effort absolument considérable. Et on ne relâche pas les efforts, c'est-à-dire on ne part pas en week-end aujourd'hui. C'est les vacances, mais on reste chez soi, on continue le confinement, on fait les mesures de distanciation, on remet en place des mesures de l'hygiène qui sont assez faibles dans notre pays et qu'on devra vraiment étudier en termes de comportement si on doit se comparer aux pays asiatiques, par exemple.
Ouais. Encore un mot sur la situation à l'hôpital, professeur Mignon. Qu'en est-il des médicaments, des sédatifs utilisés en anesthésie dont l'utilisation explose en ce moment pour les malades du Covid et dont les stocks sont limités?
Il y a des stocks limités, on fait comme on peut, on attend qu'on nous en fournisse. Si vous voulez, j'ai envie de vous dire, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça que je crois qu'il faudrait qu'on discute ensemble, Monsieur Cohen, c'est que on fait comme on peut. Hein, c'est dans le monde entier, il y a des initiatives, il y a des énergies, et on voit le meilleur comme le pire. Je préfère me concentrer sur le meilleur. Et donc, en gros, si vous voulez, aujourd'hui, le problème, c'est que la France, elle est à l'arrêt. Elle est à l'arrêt sur le plan économique. C'est fondamental, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant après. Elle est à l'arrêt sur le plan psychologique. Les gens confinés sont des gens qui sont en situation difficile, parce que c'est difficile de rester enfermé chez soi, et ces gens-là ne retournent pas au travail. Et le résultat de tout ça, c'est que le confinement, tenez-vous bien, tuera probablement plus que Covid lui-même. Je vous explique. Si vous êtes confiné, vous pouvez être malade vous-même. Vous êtes mal soigné, ou vous prévenez moins bien les maladies, ou vous faites des maladies vous-même de ce confinement. Et donc, en pratique, il faut bien comprendre que les enjeux aujourd'hui, c'est de savoir comment le président de la République et les autorités vont déconfiner. C'est ça qui est le plus important. Et c'est extrêmement complexe.
Et il faudra, de toute façon, encore plusieurs semaines de confinement, vous l'avez rappelé, hein.
Tout à fait, c'est absolument indispensable, c'est pour ça que je vous dis bien, mesures barrières, masques, et évidemment on part pas en week-end, on continue à se confiner tant qu'on ne sait pas mieux où sont les gens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait la maladie, qui se sont immunisés et donc qui ne transmettent plus la maladie, ne font plus la maladie, ben voyez, c'est mon cas, qui a envie de partir, de courir, de gambader, mais qui ne le fait pas parce que pour l'instant on ne sait pas exactement dans quelles conditions il faut le faire, et puis ceux qui sont encore Covid moins, naïfs pour le virus, qui l'ont jamais vu encore, et qui s'ils ressortent, sont éventuellement à risque de faire, dans l'immense majorité des cas, 80 à 85% des cas, une maladie ou rien du tout. Et puis pour certains, les plus fragiles d'entre nous, une maladie grave et éventuellement en mourir.
Professeur Mignon, vous restez avec nous. Dans un instant, après une pause, vous allez nous révéler et nous détailler le projet que vous avez mis au point avec d'autres. Covidia, un outil numérique qui permettrait d'accompagner le déconfinement, la sortie de crise et de limiter les risques. A tout de suite.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, en direct de chez vous pour C'est arrivé cette semaine.
Avec le professeur Alexandre Mignon qui travaille en anesthésie-réanimation à l'hôpital Cochin de Paris et qui travaille aussi sur des solutions qui font appel à l'intelligence artificielle et qui pourraient nous aider dans les mois à venir. Alexandre Mignon, chacun a bien compris avec les annonces du Premier ministre que le déconfinement aura lieu par étapes, progressivement, sous peine de voir repartir l'épidémie, vous l'avez dit. Comment voyez-vous les choses? Il va falloir vivre encore de longs mois avec ce virus?
Alors écoutez, c'est le sujet central. Naturellement, l'organisation du déconfinement, c'est une décision politique. Hein. C'est extrêmement complexe. Et je crois que pas grand monde, même en se rasant le matin, a envie d'être à la place du président de la République. Ensuite, je pense qu'il est conseillé par son conseil scientifique, qui naturellement va lui donner toutes les pistes. Ce conseil scientifique, il va lui proposer des solutions, mais il va surtout lui dire qu'en fait, on ne sait pas tout de cette maladie. On en sait de plus en plus. On a des informations qui arrivent de plus en plus vite vers nous, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Enfin, il devra l'expliquer aux Français. Et à ce titre, on voit bien qu'il y a eu un effort dans le domaine de la pédagogie extraordinaire. Je pense par exemple aux interventions de notre Premier ministre. Donc en pratique, qu'est-ce que c'est là? Les enjeux sont les suivants. Vous avez en gros trois types de populations. Vous avez les gens qui ont rencontré le virus, qui ont fait soit de manière asymptomatique, soit une maladie. Donc il n'y a pas eu de symptômes ou il y a eu des symptômes. Ils ont guéri. Ils ont développé une réaction contre le virus, ils sont maintenant ce qu'on appelle immunisés, ils ne refont pas la maladie ne passera plus par eux.
Cela ça, professeur, on en est sûr maintenant hein, qu'il y a immunité ceux qui ont rencontré le virus. Hein. Il y a des études.
Écoutez, je vous ai dit, le conseil scientifique devra expliquer au président qu'il y a des incertitudes. Celle-là n'en est quasiment plus une, mais elle devra lui indiquer qu'on a de très très fortes raisons de penser que l'immunité est présente, qu'elle bloque le virus, qu'elle est d'une durée pour l'instant. Vous voyez, il faut du recul, parce qu'on ne peut pas vous dire de combien de temps elle dure. Vous vous rappelez que la maladie n'a commencé qu'il y a quelques semaines. Mais néanmoins, l'immense majorité des chercheurs considèrent qu'elle sera neutralisante et qu'elle sera d'une durée relativement longue, un peu comme une vaccination en fait, si vous voulez. Et ces gens-là doivent pouvoir reprendre une vie normale. Et ces gens-là doivent participer d'abord à revivre normalement eux-mêmes, à être heureux, à courir, à travailler, et puis donc à relancer l'activité économique qui est essentielle. Le deuxième type d'individus, c'est les gens qui n'ont jamais rencontré le virus. Au fin fond de la Creuse ou du Limousin, il y a beaucoup de gens, l'immense majorité des gens n'ont pas vu le virus. Et ces gens-là sont dit Covid-neg. Et à l'intérieur de ces gens-là, il y a deux types de profils. Il y a des profils de gens qui sont extrêmement fragiles, les sujets âgés, les sujets qui ont des comorbidités. Ceux-là, il faut les protéger un maximum. Et ceux-là, probablement, devront rester confinés plus longtemps que les autres. Et puis, vous avez ceux qui sont les Covid moins, mais solides, c'est-à-dire les gens qui sont les jeunes, qui n'ont pas de facteurs de risque, et ceux-là qui devraient pouvoir, en tout cas, si on arrive à aider et à cartographier ces gens-là, eh bien, retourner dans la vie normale. Et puis, au milieu, vous avez une population contact. C'est une population qui a été en contact, qui était Covid neg, et qui a été en contact avec des Covid plus, et dont, pour l'instant, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. En Corée, ou à Singapour, avec les outils numériques de traçage dont vous entendez beaucoup parler et qui sont extrêmement intrusifs, on les retrouve, puis ensuite on les met en confinement, on laisse passer 14 jours à 21 jours, le temps qu'ils puissent ne pas développer, qu'on soit sûr qu'ils n'ont pas développé la maladie, qu'ils soient eux-mêmes contagieux, et puis on les laisse repartir dans leurs activités. Donc, si vous voulez, quoi qu'il arrive, il y aura je vais vous expliquer comment on peut le faire avec les techniques d'intelligence humaine, collective et artificielle. Donc, quels que soient les choix, il y aura de toute façon encore du confinement à court terme, maintenant, toujours et encore plus les masques, les mesures barrières, la transformation du mode de vie et de l'hygiène, parce que regardez les images et les photos de ce qui se passe à Singapour, en Corée ou en Chine, ou même au Japon. Et puis, enfin, il y aura trois options, d'après nous. Trois options, c'est on fait des tests massifs. Les tests massifs, Monsieur Cohen, c'est tout à fait impossible. Ça prendrait plus d'un an en France pour que tous les Français soient testés. Ça coûte excessivement cher, c'est difficile à mettre en place.
Un an, même donc, si on en fait, ouais, même si on en fait beaucoup, je sais pas.
Mais oui.
500 000 tests par semaine, oui, il faudrait un an et demi pour tester toute la population française.
Absolument. Et les tests. On parle beaucoup des autotests. Mais le problème de l'autotest, c'est qu'il sera fait à la maison et qu'il faudra qu'il y ait quand même des contrôles de qualité. Et le plus important d'entre eux, c'est que ça soit bien la personne qui fait le test, qui soit sur la petite carte du test. Parce que vous comprenez bien que si les gens ont de plus en plus envie d'être considérés comme des Covid+, ben on peut organiser un petit système où vous donnez votre sang à beaucoup de petites machines pour dire que l'autotest, c'était vous, mais c'était aussi votre famille, votre immeuble et tous vos amis. Donc c'est un peu compliqué. La deuxième solution pour déconfiner, c'est le déconfinement avec les techniques de traçage numérique. Et je crois que la France n'est pas prête pour ça. En gros, on met dans vos téléphones portables des solutions numériques qui vous tracent et qui permettent, certes, avec des bonnes intentions en termes de santé publique, de retrouver les gens que vous avez éventuellement rencontrés dans les 14 jours qui précédaient et qui sont devenus positifs. Et dès lors, on vous surveille, on vérifie que vous ne faites pas la maladie et on vous empêche éventuellement de la transmettre à quelqu'un d'autre. Et puis enfin, vous avez
l'Allemagne s'engage dans cette voie, hein, pardon.
Mais écoutez,
l'Allemagne paraît s'engager dans cette voie. Oui.
Patrick Cohen, la France, c'est la France. Les Allemands, ils font ce qu'ils veulent, mais je pense pas, et là, je vous le dis à titre personnel. Moi, en tout cas, je vais voir ça d'un très mauvais œil que quelqu'un me pousse des applications dans mon téléphone portable pour regarder ce que je fais, même si j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. Et je suis pas sûr que les Français soient capables de le faire, c'est d'autant qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette. Il y a des gens qui n'ont pas de téléphone, ça n'empêchera pas les gens de descendre d'acheter le pain sans leur téléphone, et il y a des zones qui ne voudront absolument pas et qui se rebelleront contre l'installation de ces solutions. Et donc c'est pour ça que nous, on pense que le président de la République et le conseil scientifique devraient faire appel à notre, ou en tout cas nous solliciter, on n'est pas tout seul, hein. Il y a plein d'initiatives très intéressantes dans un projet que nous avons appelé Covidia. Alors Covidia, est-ce que vous voulez que je vous parle de Covidia, Patrick?
Mais oui, vous êtes aussi...
Alors je vais vous en parler, Covidia.
Vous êtes aussi là
Covidia,
pour ça.
C'est quoi?
En gros, c'est quoi? Ça fonctionne par... c'est une sorte de scan de la population par échantillonnage, on peut le dire comme ça?
Exactement. Et d'abord, les mots-clés. D'abord, c'est un projet qui est parti de chercheurs, de scientifiques, de spécialistes de l'intelligence artificielle, des mathématiques de haut niveau. Ils sont français. Parce que vous savez, en France, il y a des gens qui travaillent bien, il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui sont motivés. Cette consortium, ce groupe de gens, ils travaillent de manière bénévole. C'est pour l'intérêt général. Et ils sont sans conflit d'intérêts. C'est-à-dire qu'ils ne, leur seul intérêt, si vous voulez, c'est d'essayer d'aider le président à résoudre la crise. C'est basé sur l'engagement. Et l'engagement, non seulement de ce groupe d'experts, et aussi des Français. Parce qu'on va mettre à contribution les Français pour nous aider, effectivement, à faire un scan. Alors, je vais vous prendre un exemple que les gens ont commencé à comprendre, dite de technique des intelligences artificielles. Si vous me donnez à un ordinateur une dizaine de milliers de photos de chats à analyser, et que vous lui représentez ultérieurement une nouvelle photo qu'il n'a jamais vue, eh bien, aujourd'hui, il est capable de reconnaître un chat. Ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Et puis, si vous lui donnez des chats à reconnaître, et que vous lui montrez un chien, eh bien, dans l'apprentissage non supervisé, il peut éventuellement reconnaître et dire que c'est un chien. Donc, cette technique-là consiste à faire quoi ? Consiste à rentrer un certain nombre de données. Ces données sont analysées, elles sont anonymisées, elles sont agrégées et elles comprennent des éléments concernant la santé, les tests d'un certain nombre de gens. Nous, on considère qu'à partir d'une centaine de milliers de tests réalisés, on pourra avoir une assez bonne image, une bonne cartographie. Et puis ensuite, des éléments de leur mobilité. Et donc, c'est là que les téléphonies mobiles, les gens qui nous ont fourni des lignes téléphoniques pourraient nous aider à faire une cartographie, c'est-à-dire à voir comment la pandémie se déplace dans le temps et dans l'espace. Donc avec ces outils de l'intelligence artificielle, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques si vous voulez, mais la promesse, c'est de dire que assez vite finalement, et à condition qu'on ait accès à ces données, ça c'est pas de notre sort, c'est du président de la République, qui sont des données contrôlées avec la CNIL, avec la Comité National d'Éthique, avec toutes les bonnes autorités qui vont bien, eh bien on va pouvoir regarder un certain nombre de paramètres, très simples, extrêmement simples, concernant le sexe, l'âge, le poids, l'endroit où vous habitez, la commune, hein, pas plus que ça, et puis des paramètres, est-ce que vous avez ou non été malade, est-ce que vous êtes connu pour être Covid ou pas Covid, ça on va le rentrer au fur et à mesure que les tests vont être mis en place, et on dira, bah, par exemple, Monsieur Cohen, aujourd'hui, avec un pourcentage de chance qui est très importante, nous pensons que vous êtes Covid plus, c'est-à-dire que comme vous avez, il y a une vingtaine de jours encore, vous êtes déplacé, vous avez rencontré beaucoup de monde, vous avez possiblement été contaminé, mais comme vous avez fait soit de manière asymptomatique, soit avec une petite grippette, une petite forme de la maladie, vous êtes immunisé, et donc vous pouvez reprendre vos activités normales. Ouais. C'est ça la promesse.
Donc chacun serait averti de son propre facteur de risque, mais ça suppose aussi, comme dans le projet qu'on évoquait juste avant, de confier volontairement à une autorité publique une partie de ses données personnelles aussi.
Alors, c'est le sujet. Alors le sujet, c'est quoi ? C'est de dire, nous d'abord, nous n'avons pas besoin de toutes vos données personnelles. On n'a pas besoin de savoir que vous êtes allé faire les courses là, vous êtes allé voir quelqu'un là, etc. On va juste avoir des données qui vont être de toute façon contrôlées par la CNIL, par la CCNE, la Comité National d'Éthique, par une autorité compétente qui serait, parce que tout ça n'est pas décidé naturellement, qui serait identifiée par le président de la République pour vérifier à quel niveau d'information on peut aller. Et nous pensons qu'on n'a pas besoin d'aller très très loin. Je vous ai dit quelques éléments de votre profil médical. Est-ce que vous avez eu ou non une maladie ou est-ce que vous étiez à risque d'avoir fait Covid ? Quelques éléments de votre déplacement dans des séries temporelles de votre déplacement, par exemple entre des communes. Et puis, on va regarder des données plus générales sur les communes elles-mêmes, sur la densité de population, sur leurs chiffres en termes d'incidence de la maladie à l'intérieur de ces communes, etc. Et à partir de ces éléments, on va pouvoir faire la cartographie. Alors, vous avez raison, il faudra qu'il y ait un engagement. Et cet engagement, il va être de différentes natures. Il va d'abord être la base de volontariat des individus. Moi, je vais vous prendre un exemple parce que les entreprises françaises vont jouer un rôle fondamental dans cette affaire. Moi, je suis, par exemple, conducteur SNCF. Et puis, où je travaille dans le nucléaire. Et actuellement, mon entreprise, elle travaille un peu en conditions un peu difficiles, voire dégradées. Et pourtant, on a vraiment besoin que les trains emmènent des patients dans l'ouest de la France ou que les centrales nucléaires continuent à fournir de l'énergie sans qu'on prenne des risques pour notre santé. Dès lors, l'entreprise et le collaborateur de l'entreprise a tout à fait intérêt à vouloir savoir où est-ce qu'il en est de ses tests. Et il accepte, de manière temporaire, contrôlée, temporaire, vous entendez, temporaire, contrôlée, qu'on puisse avoir quelques informations sur lui, qui sont celles que je vous ai indiquées et qui peuvent être également récupérées par les données de téléphonie mobile. Dans ce contexte, ces gens-là participent de manière généreuse, de manière volontaire à la constitution de la base de données qui permet, avec le travail des informaticiens et des gros ordinateurs, des supercalculateurs, de dire et de faire la promesse que très rapidement, le plus vite possible, sans attendre un an, on pourra dire à ce collaborateur qu'il est Covid plus ou il est Covid moins, et que par exemple on fasse travailler les gens avec que des Covid plus les uns à côté des autres, soit les gens que des Covid moins à côté des autres parce qu'il n'y a pas de risque, soit éventuellement des Covid moins mais qui ne sont pas des gens à grand risque, c'est-à-dire qui sont des jeunes, qui n'ont pas d'antécédents, pas de facteurs de risque, et ils pourraient éventuellement travailler sans savoir réellement, en tout cas avec éventuellement des risques de faire Covid, mais pas du tout important. Voilà
dans votre scénario,
le concept, si vous voulez.
Dans votre scénario, Alexandre Mignon, ça va durer combien de temps? Quand peut-on espérer retrouver une vie sociale normale sans se soucier de savoir qui est naïf et qui ne l'est pas, qui est immunisé et qui ne l'est pas?
Mais écoutez, Patrick Cohen, si on avait la possibilité de faire les 67 millions de Français testés dans la semaine qui vient, la réponse serait on est déconfiné dès la fin de la semaine. Mais c'est pas possible. Donc moi, je crois que le gouvernement, le président de la République, le conseil scientifique vont se réunir, ils vont décider, ils vont faire le mieux possible pour les Français. J'ai aucun doute qu'ils feront le mieux possible pour les Français. Nous pensons qu'avec la solution d'intelligence artificielle, on peut faire mieux, plus vite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui pensons ça, parce que vous savez, on n'entend pas beaucoup parler des grands groupes Google, vous voyez les GAFAM, les BATX, mais ils ont déjà probablement ces données sur nous. Ils les ont parce qu'ils ont un certain nombre d'informations en termes de mobilité, en termes d'activité. Ils savent si on est allé à la pharmacie, ils savent si on est allé au cinéma ou pas, parce qu'avant le confinement, on peut faire des cartographies, si vous voulez. Et donc, toutes ces activités se sont réduites. Donc, si on les laisse faire, on les laisse faire, mais si on profite qu'en France, il y a une initiative qui est honnête, dynamique, intelligente et basée sur les compétences de la France, parce qu'en France, on a tout un tas de gens qui sont extraordinaires, notamment nos ingénieurs d'informatique, de data science, ils sont chassés partout, ils sont allés dans la Silicon Valley, ils sont allés au Canada, ils sont allés à Londres, ils peuvent rester à Paris pour travailler pour la France. Et donc du coup, si Monsieur Macron, le président, donne accès à un certain nombre de données, de data, de manière temporaire, contrôlée, alors on peut démarrer le projet, et on peut lui donner probablement un début de réponse dans le mois qui vient, avec, je complète ce que je viens de vous dire, avec la possibilité qu'une nouvelle donnée arrive, eh bien, le modèle s'affine, il devient de plus en plus performant, pertinent, comprenez ?
Merci, c'est le projet Covidia, et merci professeur Alexandre Mignon de nous l'avoir exposé et d'avoir échangé avec nous ce matin.
Europe 1.
Et à présent, question importante pour comprendre ce qui nous arrive et pourquoi on n'a pas vu grand-chose venir. La Chine a-t-elle caché ses morts? Karine Milsan, chercheuse au CNRS, avec nous dans un instant.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Karine Milsan.
Bonjour.
Docteur en économie, chargée de recherche au CNRS, vous enseignez l'économie de la santé à l'École d'économie de Paris après avoir vécu 10 ans en Chine. Je voudrais qu'on rembobine avec vous le film de cette pandémie qui, au fur et à mesure qu'elle dévaste et paralyse les pays développés, rend miraculeux ou invraisemblable le bilan chinois. Je rappelle, un peu plus de 3000 décès et 80 000 cas pour 1 milliard 300 millions d'habitants, soit le plus petit ratio de tous les grands pays. D'abord, la naissance de l'épidémie à Wuhan en décembre, mais peut-être bien plus tôt. Elle a été étouffée, minorée?
Elle a été gérée d'abord de façon locale, c'est-à-dire qu'elle, enfin locale, elle a été gérée au niveau de la province, donc au niveau du Hubei, puisque c'est là qu'elle est apparue. Et il a fallu quelques semaines pour se rendre compte de sa gravité et pour que ça monte en fait au niveau de l'État central. Donc l'OMS a été alertée par l'arrivée de ce virus inconnu à la fin du mois de décembre.
Oui. Et ensuite, les autorités chinoises ont attendu le 22 janvier. Enfin, elles ont réagi très fortement à ce moment-là avec la mise en confinement et le verrouillage complet de Wuhan et de sa province. Est-ce qu'il est vraisemblable que pendant ces 3 premières semaines de janvier, le virus ne se soit pas répandu largement dans tout le pays?
C'est une bonne question. Ce qui est sûr, c'est que lorsque l'État central a repris la main sur le virus, il l'a fait au moment où ça s'était répandu au sein de la province. Et quand on regarde en fait les chiffres, ou du moins leur évolution sur l'ensemble du territoire, on voit que l'évolution a été très très forte dans la province de Roubaix, dans la province où il y avait cette fameuse ville de Wuhan où a commencé où les choses ont commencé dans un marché, et que les chiffres se sont peu augmentés à l'extérieur de cette province. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que les choses ont eu lieu juste avant le Nouvel An chinois. Donc à un moment où un grand nombre de personnes sont parties rejoindre leur famille, puisque vous savez qu'en Chine, les migrants très, très souvent quittent leur foyer sans enfants, ils y laissent les enfants avec les grands-parents pour aller travailler, et donc les grandes fêtes chinoises sont l'occasion de retrouvailles familiales. Donc ça a eu lieu au moment en fait de cette fête chinoise, et donc un moment où les gens avaient déjà commencé à migrer pour aller voir leur famille. Mais malgré tout, il semble que le fait d'avoir totalement confiné, totalement arrêté toute chose, tout déplacement de façon très très sévère et très autoritaire et très dure, avec un traquage très très serré des gens, c'est-à-dire que lorsqu'ils même s'ils sortaient de chez eux, ils étaient rappelés à l'ordre. Eh bien, ça a eu un effet très fort sur la province de Roubaix. Et si on regarde les chiffres, il n'y a pas eu tant de cas que ça à l'extérieur. Si on s'extrapole des chiffres, si on va au-delà des chiffres et qu'on commence à se dire oui, peut-être que les chiffres ne sont pas réalistes, malgré tout, on peut observer qu'il n'y a pas une tendance délirante à l'extérieur de cette province.
Ah ben, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que si, d'après les chiffres officiels, en dehors de la province du Hubei, la Chine a été épargnée par l'épidémie. C'est moins de 200 décès annoncés dans le reste du pays. C'est aussi cela qui jette le trouble, Karine Milsan.
Il faut pas s'arrêter sur les chiffres. Il faut pas commenter ces chiffres, à mon sens. C'est pas le chiffre lui-même qui doit nous indiquer des choses, mais plutôt son écart par rapport aux chiffres de la province. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération. C'est que vous avez une offre en Chine qui peut être très hétérogène à l'intérieur d'une même province, c'est-à-dire que l'offre de soins n'est pas du tout identique à l'intérieur de chaque province, entre des zones rurales et des zones urbaines. Vous pouvez me répondre, en France, on peut dire que c'est la même chose avec les déserts médicaux. Ma réponse sera non, parce que l'offre de soins, c'est-à-dire le niveau de qualification du personnel soignant, est très très différent suivant l'endroit où vous vous trouvez. Il est différent parce qu'il est inscrit comme ça, c'est-à-dire que le niveau de diplôme demandé, l'examen pour devenir médecin, suivant la structure où vous allez exercer, ne sera pas la même. Vous n'aurez pas à passer le même examen si vous vous projetez, enfin si vous allez exercer dans un petit centre de santé, ou bien alors dans un petit hôpital, ou bien alors si vous voulez aller exercer dans un hôpital de l'ordre de nos CHU, où là le niveau de formation sera comparable à nos CHU, alors que partout ailleurs ne sera pas comparable à nos CHU. Mmh. Donc ça, ce sont des éléments, si vous voulez, qui vont jouer dans les chiffres que l'on peut observer. Parallèlement, vous avez également des éléments d'accessibilité en Chine. En France, on a une accessibilité aux soins, on peut être discuté, mais malgré tout, on a une forme de gratuité aux soins, ou du moins un reste à charge relativement faible. En Chine, ça n'est pas du tout le cas. Vous avez beau avoir des assurances publiques, vous avez trois sortes d'assurances publiques pour les urbains, les ruraux et les migrants. Malgré tout, vous avez un reste à charge très important, et puis ces assurances définissent un panier qui est de soins qui va vous être remboursé ou partiellement pris en charge. Et évidemment, quand vous êtes dans un cas d'épidémie, eh bien dans ce panier, vous n'avez pas la prise en charge pour ce virus. Et donc, vous êtes dans une situation, en fait, où vous allez avoir un reste à charge important, dans une situation où on vous dit en même temps qu'on va vous confiner, donc vous voyez votre activité économique s'arrêter. Donc tout ça sont des facteurs qui vont faire que les gens vont préférer rester chez eux, ne pas forcément se rendre à l'hôpital alors qu'ils se savent malades. Et donc vous allez avoir des personnes qui vont échapper, si vous voulez, statistiquement aux chiffres qui vont être donnés, puisque ce sont des chiffres au sein des structures hospitalières. Quand vous avez un système de santé qui est très performant, le résultat, c'est que vous allez pouvoir avoir une vision plus claire, même si ça reste un intervalle d'erreur, mais davantage claire sur la situation critique au sein de votre pays. Lorsque vous avez un système de santé qui qui n'a pas la performance des systèmes de santé, dans l'accessibilité j'entends, hein, des systèmes de santé qu'on peut observer en Europe par exemple, ou même en Corée du Sud, à Taïwan, à Singapour, eh bien vous êtes dans un cas où vous allez avoir un intervalle d'erreur sur les personnes qui sont potentiellement décédées de par cette épidémie qui sera beaucoup plus large. Et enfin, vous avez tout ce qui est polypathologique, c'est-à-dire que vous savez comme moi que cette épidémie va s'attaquer en priorité sur les personnes qui sont fragilisées, qui sont les cas les plus sensibles sont les personnes qui peuvent être avec maladie chronique. Et donc ensuite, il y a quelque chose un peu morbide, mais c'est l'affectation en fait du décès. Est-ce que vous allez l'attribuer à une des pathologies portées par cette personne ou bien alors au Covid? Donc toutes ces questions vont faire que vous allez avoir un intervalle d'erreur qui sera d'autant plus grand que votre système de santé est performant. Et aussi l'information que vous récoltez de votre système de santé. En France, on a un système de santé avec un programme médical, un système d'information sur les hôpitaux qui fait que on est à même d'avoir une information relativement, enfin très précise sur ce qui se passe au sein des établissements hospitaliers. En Chine, on n'a pas cette exhaustivité dans le recueil de l'information des établissements hospitaliers. Donc ça crée également des variances et des différences dans ce qu'on peut observer.
Et puis enfin, j'entends ce que vous dites sur le système
pour les
de
chiffres, vous...
Oui, j'entends ce que vous dites sur le système de santé chinois, Karim Ilsan, avec éventuellement tous ces malades et voire des décès qui n'ont pas transité par le système hospitalier, qui n'ont pas été pris en compte dans les statistiques officielles, mais il n'empêche qu'on peut tout de même penser que ce bilan minoré a pu contribuer à retarder la prise de conscience mondiale sur le danger de ce virus et le risque d'une pandémie.
Vous avez raison, et en même temps, il faut voir que la Chine est un pays de 1,4 milliard et que donc ils ont aussi à gérer deux phénomènes. Ils ont effectivement à alerter l'opinion internationale sur la question et ils ont alerté l'OMS. Ils ont également à gérer une situation intérieure avec une très très forte inégalité sociale et peu de protection sociale. Donc quand vous confinez, et c'est pas seulement dans la province de Wuhan que les gens ont été confinés, ils ont été confinés de façon très très dure dans la province de Wuhan, mais partout ailleurs en Chine, les gens se sont retrouvés dans des situations où ils ne pouvaient pas se rendre à leur lieu de travail, et lorsqu'ils pouvaient télétravailler, eh bien ils pouvaient le faire, mais il y a tout un pan de la population qui ne pouvait pas télétravailler, comme vous pouvez observer en France, mais avec une inégalité, si vous voulez, sociale beaucoup plus forte. Et donc vous avez en fait un État chinois qui doit gérer à la fois sa société civile, éviter un débordement social donc à travers les chiffres qu'il va communiquer, et puis en même temps suffisamment alerter l'extérieur sur la gravité. Donc si vous regardez de façon les chiffres pour les chiffres, il est évident qu'ils ont minoré les chiffres. Et d'ailleurs, il y a un document des renseignements américains qui a été relevé par l'agence Bloomberg et qui en fait état. Pardon ?
Qui parle de mensonges, effectivement.
Et qui en fait parfaitement état. Voilà, c'est ça. Mais en parallèle, il faut voir que si vous regardez 20 ans en arrière et si vous regardez l'épisode du SRAS qui a eu lieu en Chine, et plus au sud, enfin ça avait beaucoup touché Hong Kong, mais également la Chine, vous avez une totale opacité sur ce qu'il s'est réellement passé en Chine. Donc si vous voulez, du point de vue historique chinois, il y a eu un énorme effort de communication sur l'arrivée de cette épidémie. Maintenant, si vous regardez par rapport à la manière dont nous communiquons et comment, effectivement, nous n'aurions pas forcément communiqué de la même manière, et donc de ce fait, il est possible aussi que les chiffres, s'ils avaient été plus élevés, nous auraient amené à changer la rapidité avec laquelle nous avons géré la crise. Mais il faut vraiment pas perdre de vue qu'il s'agit ici d'un pays de 1,4 milliard, qu'il faut qu'il gère une population pour laquelle ils avaient très rapidement après l'annonce en fait de cette épidémie, quelques semaines plus tard, ils ont carrément fermé toute une province. Donc ça voulait dire obliger très sévèrement, en traquant les gens très fortement. Ils les ont obligés à rester dans leur logement, sachant que quand vous êtes dans un pays avec une énorme disparité sociale, ça implique des logements d'une grande insalubrité, avec des conditions d'hygiène assez terribles. Et avec également des gens qui, comme vous avez moins de protection sociale, des gens qui se retrouvaient avec avec juste leur économie, mais des économies qui ne ressemblent qui est d'un niveau très faible. Et donc de ce fait, vous ne pouvez pas de plus ajouter à tout cela une dose d'anxiété beaucoup plus grande. Donc comme vous êtes dans un intervalle d'erreur qui est beaucoup plus large que celui qu'on peut observer en France de par nos systèmes de santé qui est plus précis, qui permet des choses plus précises, eh bien, vous allez opter pour minorer au plus possible les choses. Et vous êtes bien quand sûr. Même dans un état autoritaire, il faut quand même pas le négliger. Et de ce fait, il y a des décisions qui sont des décisions politiques également. Donc, il est évident que les chiffres qui sont donnés sont aussi le fruit du régime politique chinois. Même s'il y a un effort par rapport à il y a 20 ans, on est quand même dans un état qui est totalement autoritaire, et donc on a aussi la résultante de cet état autoritaire.
Évidemment, et qui met une chape hermétique sur la société civile pour autant.
Juste un dernier point, parce que je pense qu'il faut quand même...
Oui, rapidement, pardon.
Juste un tout dernier point, juste 2 minutes, juste... Si vous regardez la grippe, si vous regardez un tout petit peu en arrière, vous pourrez quand même regarder, vous apercevoir que de toute façon, les chiffres réels, si vous voulez, c'est avec ce degré d'erreur minimisé, c'est toujours des choses que l'on peut avoir que rétrospectivement. Même aujourd'hui en France, si on regarde ce qui se passe, on sait qu'on a des chiffres, mais des chiffres liés à l'hospitalisation. Il y a toute la question des EHPAD, où on a moins d'informations sur ce qui se passe parce que ça demande en fait un certain recul pour être capable d'analyser et de voir ce qui peut être affecté à l'épidémie ou pas. Donc vous imaginez qu'en Chine, c'est démultiplié de par le système.
Merci beaucoup Karine Milsan, chargée de recherche au CNRS. Merci de nous avoir éclairé ce matin.
Europe 1.
Un monde à l'arrêt, c'est un monde qui s'appauvrit. Qui va payer la crise? L'économiste Patrick Artus avec nous dans un instant.
Europe 1. On continue à vous informer sur Europe 1. Alors comme chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine.
Bonjour Patrick Artus.
Bonjour.
Directeur des études à la banque Natixis, vous êtes souvent singularisé par des positions originales ou à contre-courant. Et là, dans une note publiée cette semaine, vous allez jusqu'à prédire la fin du capitalisme néolibéral. Vous allez nous expliquer, mais d'abord, je voudrais avoir votre regard sur ce choc économique mondial dont on ne connaît encore ni l'ampleur ni la durée. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aborder un terrain complètement inconnu, y compris pour les économistes ?
On sait quand même à peu près comment il faut réagir, et je crois d'ailleurs que les gouvernements européens réagissent assez bien. C'est pas du tout une crise habituelle. Les crises dont on a l'habitude sont des crises où la demande chute. Les entreprises arrêtent d'investir, les ménages arrêtent de consommer, et donc la réaction doit être de soutenir la demande. Donc on fait des déficits publics qui permettent de donner du revenu, de soutenir les entreprises. Cette fois-ci, c'est une crise de production, puisque une partie importante, apparemment 50% en France, des salariés ne peuvent plus aller travailler. Donc la bonne réponse, c'est d'éviter les faillites d'entreprises. Parce que la réflexion qu'on doit avoir, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui pourrait faire que cette crise qui est très violente, mais qui normalement n'est pas très longue, se transforme en une longue période de stagnation économique. Et un des mécanismes de transmission, ça serait évidemment qu'il y ait beaucoup de faillites. Et donc je crois que tous les gouvernements, d'ailleurs même aux États-Unis, l'ont compris. Et donc on a des politiques qui essaient de maintenir les entreprises en vie, de leur permettre de traverser cette crise avec des aides publiques, avec des baisses d'impôts, avec des subventions, avec des garanties des crédits faites par les États, etc. Donc certes, nous n'avons pas du tout l'habitude de ce type de crise, mais je crois que nous sommes quand même capables de comprendre ce que sont les politiques économiques qu'il faut mettre en place.
Garantir la pérennité du tissu économique, ça vous l'avez dit, nous ne laisserons aucune entreprise risquer la faillite, a promis Bruno Le Maire, et puis aussi l'État français qui s'engage en quelque sorte à maintenir le niveau de vie de ses habitants pendant cette crise. La France peut ou doit ainsi dépenser sans compter, quoi qu'il en coûte, avait dit Emmanuel Macron.
Alors c'est une question importante, parce que évidemment on ne pourrait pas faire ça pendant 2 ans. Mais on travaille tous, alors peut-être à ton tort, mais on travaille tous, c'est des hypothèses que nous donnent d'ailleurs les chercheurs en épidémiologie, avec l'idée que c'est une crise de 3 mois, comme on l'a vu en Chine. Si c'est une crise de 3 mois, il faut le faire, puisqu'à nouveau, si on laissait les entreprises faire faillite ou si on laissait... Et c'est une différence intéressante entre les États-Unis et l'Europe. Si on laissait le taux de chômage exploser, ce qui sera probablement pas le cas en Europe, parce qu'on essaie vraiment de l'éviter, hein, avec des mécanismes de chômage partiel, avec des aides aux entreprises, c'est ce qui va être le cas aux États-Unis, et je crois que c'est une grave erreur de la politique menée par l'administration Trump, eh bien, cette crise deviendrait durable. Hein. Il y a plein de gens qui seraient au chômage, qui auraient perdu le lien avec leur entreprise, il y a plein d'entreprises qui auraient disparu avec leur capital, leurs brevets, leurs produits. Donc, je crois à nouveau que il faut faire ce qu'ont fait les États. Alors, ça pose une question qui est la faisabilité d'un gigantesque déficit public. Cette année, en France, c'est-à-dire dans la plupart des pays européens, on va avoir un déficit public, j'estime qu'il va être de l'ordre de 7% du produit intérieur brut. Ça aurait dû être 2. Aux États-Unis, ça va être 15. Et donc, comment on fait? Si les États avaient émis cette dette publique supplémentaire sur les marchés financiers, ça aurait été très compliqué. Et les taux d'intérêt auraient certainement beaucoup monté et ça aurait aggravé la crise. Mais c'est là que le rôle des banques centrales est absolument primordial. Donc les banques centrales vont acheter la totalité de cette dette publique nouvelle émise par les États, vont payer en créant de la monnaie, hein, ils vont l'acheter. Et donc il n'y aura ni hausse des taux d'intérêt, ni problème de financement des États. Alors après, vous pouvez dire, on a repoussé la question un peu plus loin, qui est certes, on a réglé le problème de l'énorme déficit public, c'est la Banque centrale qui le finance, il n'y a pas besoin des marchés financiers, mais est-ce que la Banque centrale peut faire ça pour n'importe quel montant? Et la réponse est oui, enfin, il y a des limites, hein, mais la limite c'est quoi pour une Banque centrale? C'est le moment où la confiance dans la monnaie se perd. On en est quand même extraordinairement loin. Le Japon fait ce que fait la BCE aujourd'hui depuis 20 ans. Il n'y a pas de perte dans pas de perte de confiance dans l'yen. Hein. Les Japonais gardent leur yen, ils s'en débarrassent pas. Donc on a trouvé finalement une espèce de martingale qui est on ne saurait pas faire un déficit public de 7% du PIB, ou en tout cas ça ferait fortement monter les taux d'intérêt et ça serait très mauvais. Donc faisons acheter la dette publique par la Banque centrale qui va financer les États. Et en fait, il y a tout un débat qui ne sert pas à grand-chose, parce que vous savez qu'il y a une théorie qui s'appelle l'hélicoptère monnaie, hein, où on distribue de la monnaie aux citoyens. Ben, on est en hélicoptère monnaie. Quand on paye que l'État paye le chômage partiel, émet de la dette qui est immédiatement achetée par la Banque centrale et qui met de la monnaie à la place, c'est exactement comme si la Banque centrale donnait de la monnaie aux personnes qui sont en chômage partiel. Donc on a démarré cette politique d'hélicoptère monnaie et ça permet aux États de faire ces énormes déficits publics. Donc pour l'instant, on a une solution qui tient.
Patrick Artus, vous restez avec nous, on poursuit cet échange, on essaie d'imaginer le monde d'après avec vous après une dernière pause.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec l'économiste Patrick Artus qui a publié une note cette semaine sur le site de la banque Natixis, une note intitulée « La crise du coronavirus sonne-t-elle la fin du capitalisme néolibéral ?» Votre réponse, Patrick Artus, est oui, mais il faut nous expliquer ce que vous entendez par là.
Mon interprétation du capitalisme néolibéral, c'est que la plupart de ce que nous lui reprochons assez collectivement et de façon assez consensuelle, c'est une préoccupation insuffisante pour le long terme. Je crois qu'on peut résumer comme ça. Alors on peut dire que c'est parce que la rentabilité exigée du capital est trop élevée. Quand on veut 12 ou 15% de rendement du capital, on s'intéresse pas beaucoup au long terme, puisque le long terme pèse très peu. Et c'est pour cela probablement que dans beaucoup de pays, on a déformé le partage de revenus au détriment des salariés, qu'aux États-Unis, on voit se reconstituer des monopoles, qu'on s'intéresse pas beaucoup au climat et qu'on rachète les actions pour faire monter les cours boursiers. Donc je pense que la plupart des économistes, d'ailleurs, qu'ils soient de droite, de gauche ou du milieu, pensent que tous ces comportements du capitalisme contemporain sont inefficaces, hein, et du point de vue pas seulement moral, du point de vue économique. Et donc, l'espoir qu'on peut avoir, c'est que cette crise nous conduise à avoir des horizons longs. Alors ça part bien sûr des systèmes de santé, hein. On n'a pas mis assez d'argent dans l'hôpital, on s'est pas préoccupé de ce que faisait l'industrie du médicament, mais ça va sans doute se généraliser, on va pas s'intéresser qu'au système de santé. On s'aperçoit qu'on ne produit pas nos équipements pour les énergies renouvelables, qu'on émet trop de CO2, qu'on a un problème d'environnement dans l'agriculture, enfin la liste vous la connaissez, elle est longue. Donc il me semble que l'espoir qu'on peut avoir, c'est une préoccupation du long terme, hein, et donc on reviendrait, alors tout le monde le dit, hein, mais je crois que c'est vrai, on reviendrait à une vision plus longue, plus prospective de ce qu'il faut faire dans une économie. Alors, la complication, quand même, est extrême, parce que, bien sûr, tous les États nous disent, mais on jure qu'on va s'occuper davantage de l'hôpital, des industries stratégiques, qu'on va relocaliser plein d'industries, parce qu'elles sont stratégiques, on peut pas les délocaliser dans les pays émergents, qu'on va mettre de l'argent dans la formation, dans l'éducation. Le problème, c'est que les États vont sortir de cette crise avec une énorme dette publique, même si les banques centrales, je l'ai dit tout à l'heure, achetaient cette dette, elle est quand même énorme. Et donc, est-ce que les États auront les moyens de ces politiques de long terme? Et deuxièmement, les entreprises, elles, sont toujours dans un modèle de capitalisme qui exige une forte rentabilité rapide du capital. Et donc, c'est pas leur mouvement naturel de commencer des projets très longs qui ont des résultats dans 15 ans, dans 20 ans. Donc, même si on a une volonté collective d'allonger les horizons, et il me semble qu'on l'aura, encore qu'il y a certains historiens nous rappellent qu'après les grandes épidémies du passé, au bout de 6 mois, tout était retour à la normale et qu'il n'y avait aucun changement dans les comportements. Donc, faut être méfiant, mais on peut espérer qu'il y a une vision du long terme qui s'installe. Tout le monde le dit, donc ça, peut-être qu'il y aura un fort mouvement d'opinion pour cela. Ça, faut quand même comprendre que ça va être compliqué à faire. Hein, les États n'auront pas des montagnes d'argent public à mettre pour ramener des industries, pour aider les entreprises à se relocaliser ou pour moderniser la santé. Et les entreprises devront expliquer à leurs actionnaires qu'elles travaillent différemment, quoi, avec une vision plus longue des projets et moins de préoccupations pour le rendement instantané. Tout ça est souhaitable et compliqué. Donc, oui. J'ai mis un point d'interrogation
assez,
à mon
et
mon
assez
article,
optimiste. Et assez optimiste, Patrick Artus. Il n'y aura pas des laissés pour compte de cette crise, des groupes d'individus ou des pays, j'entends.
Alors évidemment, on est nombriliste, on est focalisé aujourd'hui sur la Chine, l'Europe et les États-Unis. Faut pas oublier que cette crise déclenche une crise catastrophique des pays émergents. Ouais. D'une part, une crise sanitaire qui va être catastrophique probablement. D'autre part, une crise financière parce que comme dans toutes les crises, toute l'épargne des pays émergents part s'investir en dollars, hein, et donc quitte le pays, n'est plus investi dans le pays. Et troisièmement, on a eu un effondrement des prix des matières premières qui est absolument dramatique pour beaucoup de pays émergents. Donc c'est vrai qu'on s'occupe de l'OCDE, mais la crise est pire, bien pire dans les pays émergents. Et ça, on le regarde pas. Et puis dans l'OCDE, malgré tous les efforts des gouvernements, je le disais avant, pour limiter les faillites, limiter le chômage, il y aura des faillites et il y aura du chômage, et en particulier des populations moins protégées, hein, les intérimaires, les titulaires de contrats courts, et donc évidemment, il y aura des dégâts. Je dis simplement que quand on parle au gouvernement européen, ils ont une approche qui me paraît extrêmement positive, en disant on va essayer de limiter le plus possible les dégâts, les populations oubliées, et tous les jours ils rajoutent un peu au dispositif en s'apercevant que tel. Donc il y a une vraie bonne volonté, il me semble, dans les gouvernements, y compris le nôtre ici, pour essayer de faire à nouveau ce que je disais avant, qu'il n'y ait pas de mécanisme d'hystérésiste, hein, qui transforme cette crise en quelque chose qui soit durable.
Merci. Merci Patrick Artus, je signale votre prochain livre qui paraîtra le 20 mai, si tout va bien.
Voilà.
40 ans d'austérité salariale, commence en sortir chez Odile Jacob. Merci de nous avoir répondu ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Et merci de nous avoir suivis, je vous retrouve demain juste après 9h, dans un instant après les infos de 10h, Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Écoutez, vos invités ce matin. Oui.
Bah, les invités, ils sont un peu partout à travers l'Europe et même plus loin. Et donc, on va jongler pour faire une belle émission.
Comme d'habitude. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.